Père, Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tandis que nous célébrions il y a quelques semaines à peine la fête du Christ-Roi, nous avons sous les yeux depuis quelques dimanches une description un peu étrange de ce royaume dont Jésus est le roi justement, à la nature tout aussi étrange. Et le Seigneur choisit pour décrire ce qu'est ce royaume, non pas des descriptions à la manière de l'Apocalypse, tout à fait mirobolantes, merveilleuses, qui en mettent plein la vue, il choisit au contraire une série de paraboles tout à fait étonnantes, parce que tout à fait banales. Ce sont des paraboles tirées des grains, par exemple, et nous sommes depuis dimanche dernier sur ces paraboles-là. Souvenez-vous que la semaine dernière, nous avions cette parabole du bon grain et de l'ivraie, et dans un passage précédent, juste dans l'Évangile, nous avions cette autre parabole qui n'a pas été méditée cette année, sur le semeur qui sort semé, et des grains qui tombent dans le chemin, sur le côté, mais là où il ne faut pas, et dans la bonne terre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous indiquer, ou plutôt, à quoi veut-il nous pousser? Bien, je crois que par ces deux paraboles-là, le semeur, dont trois quarts des grains sont perdus, ne servent de rien, et celle que nous avons vue la semaine dernière, le bon grain est livré, qui concerne le quart du grain restant, qui apportait du fruit, mais qui est sans cesse menacé par l'ivraie, le Seigneur veut nous montrer le caractère sans cesse éphémère de cette solidité du royaume, du moins pendant que nous sommes encore sur cette terre. Le royaume définitivement instauré, le royaume où tout n'est que luxe, calme et volupté, c'est pour demain, c'est pour le ciel, même c'est pour la fin des temps. Aujourd'hui, ce royaume-là est assez étrange, il est exposé à toutes sortes de contradictions. Si bien que l'on pourrait revenir, en ayant entendu ces deux paraboles-là, seulement un quart du grain qui porte du fruit et encore été exposé à l'ivraie, on pourrait en venir à désespérer que le royaume tienne véritablement et qu'il s'instaure définitivement. C'est pourquoi Jésus utilise, à la suite de ces deux premières paraboles, deux autres paraboles qui sont soumises à notre attention aujourd'hui. La parabole du grain semé et la parabole de la levure. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? En réalité, que, grâce à la parabole du grain élevé tout à l'heure, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Que nous n'avons pas à craindre, parce que le royaume ne semble pas du tout avoir pris, je crois que les événements récents en témoignent, et la réaction qui est donnée à cette attaque en témoigne peut-être davantage encore, il semble bien que le royaume de Jésus-Christ, tout le monde s'en fout, il faut être clair. Et Jésus veut nous enseigner qu'il n'y a pas à craindre, que tout se passe tout d'abord que dans le secret. Le grain s'élevé étant la plus petite de toutes les graines et portant un fruit qui est le plus grand des fruits, si l'on veut, puisqu'il s'agit d'un arbre avec de ses larges ramures où viennent, comme dit Jésus lui-même, nicher tous les oiseaux du ciel. C'est, je crois, le premier enseignement, n'ayez crainte, petit troupeau, comme il dit d'ailleurs, n'ayez crainte, je suis là pour vous protéger, vous êtes exposé à la dent des loups. Vous êtes exposé aux mercenaires de tout poil qui voudraient vous ranger sous leur juridiction, n'ayez crainte, il y a en vous comme un grain qui s'est levé, véritablement présent, et qui a une puissance telle qu'en dépit des apparences, il finira, quoi qu'il advienne, inévitablement par triompher. Et dans cette dernière parabole, pour ceux qui ne seraient pas suffisamment rassurés, cette femme qui enfouit la levure dans un petit bas, voilà ce qu'il faut comprendre. Il ne suffit pas d'attendre que le grain s'est levé, porte tout son fruit sereinement, tranquillement et, j'allais dire, paresseusement. Le Seigneur, en faisant allusion à cette levure dans la pâte, nous demande néanmoins en réalité que notre coopération. Qu'est-ce que c'est que la levure, sinon un peu de blé, que l'on a laissé générer, que l'on a concassé, que l'on a laissé mûrir et qui est ensuite enfoui dans la pâte et qui permet à la pâte de lever. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il faut, mes frères, que nous fassions un effort. Qu'à la fois nous soyons sûrs que le royaume de Dieu adviendra, que cette graine qui s'est levée, qu'on ne voit pas encore, qui est pourtant bien là, et qui portera un fruit comme nous n'osons même pas dire, nous le représenter, mais qu'en même temps, nous avons à coopérer, nous avons à être comme le levain. Ce levain, constatez que l'effet qu'il produit vient par contact avec la pâte d'une sorte de corruption de la pâte. Car c'est cela qui se passe. C'est-à-dire en réalité que Dieu attend de nous, comme le levain corrompt la pâte pour la faire lever, que nous soyons là pour subvertir le monde dans lequel nous sommes. Vous savez que je reviens très souvent à cette réalité-là, parce que ça me plaît, j'avoue, ce côté un peu punk du chrétien, disons, que nous avons à être, oui, des borderline, si j'ose dire, alors non pas en termes psychiatriques, parce que c'est un peu grave, mais vous voyez de quoi je parle, nous avons à être des marginaux, c'est vrai, à accepter, et parfois même à revendiquer cette marginalité, non pas pour être original, mais simplement pour bien montrer, et nous montrer à nous-mêmes, que nous avons, encore une fois, à subvertir ce monde. Jamais nous ne pourrons correspondre avec les cadres du monde, et c'est tant mieux. On ne cessera de nous le reprocher, et aujourd'hui, je crois plus que jamais, et peu importe, nous savons nous que nous avons, petit à petit, à contaminer par contact ce monde. Notez bien que la levure, c'est une lapalissade, c'est une validité incroyable, mais méditez cela pour votre propre vie spirituelle, je médite avec vous cela. La levure doit évidemment produire son effet de corruption de la pâte, et donc ne permet de lever la pâte qu'à la condition qu'elle soit mise en contact avec cette pâte. Et plus encore, qu'elle soit enfouie au beau milieu de cette pâte. Vous voyez très bien ce que je veux en dire, l'analogie est très simple. Nous n'aurons d'effet dans la société, et nous pourrons véritablement jouer notre rôle subvertif que le Seigneur a dans nous, et qu'il a bien trouvé dans tout premier lieu, ça lui a coûté la croix, remarquez-le, eh bien nous ne pourrons porter ce fruit-là qu'à la condition que nous soyons en contact avec cette pâte et le monde. Et mieux encore, à la condition que nous acceptions de nous mouiller la chemise, de tremper nos mains dans cette étrange pâte, très souvent nous et à nous, qui nous colle aux pâtes, mais où le Seigneur nous demande de jouer notre rôle. Il faut être très clair, soit, et ça c'est ce que nous enseigne la parabole de l'Ivraie, soit au contact de ce monde-là, c'est l'ivraie qui l'emporte sur le bon train que nous essayons d'être, parce que nous avons en nous, normalement, la part, si vous n'y êtes pas, je peux vous y restaurer, grâce au pouvoir que Dieu m'a conféré. Bref, nous apprenons donc par la parabole du bon train et l'ivraie que nous risquons sans cesse d'être contaminés par cette ivraie, c'est tout à fait vrai, et le Seigneur nous dit en d'autres termes ailleurs, là, efforcez-vous de ne pas mettre votre trésor dans les biens secondes, où la teigne et la rouille ravagent le trésor. Qu'est-ce que c'est que cette teigne et cette rouille? Saint Ambroise, c'est le maître de Saint-Augustin, qui, pourrait-on dire, a accouché en même temps que Monique, ce serait son père, Saint-Augustin, tandis que Monique, on serait sa mère spirituelle, en même temps que, selon la chair, nous expliquait que la rouille, c'est malheureusement ce tri que nous faisons dans la parole de Dieu, c'est l'hérésie, ce choix de quelques vérités que Jésus nous enseigne et qui nous plaisent. Je veux bien être chrétien, mais à la condition que je puisse choisir les préceptes auxquels je me plie et garder ceux qui ne me reviennent pas. Et ça c'est pour la rouille, quant à la teigne, c'est une sorte de futilité auquel nous attachons notre cœur et qui petit à petit, par contact, nous corrompt. Donc soit nous nous laissons affecter par cette ivraie-là, nous nous laissons désespérer de la progression de cette ivraie non seulement dans le monde qui nous entoure, mais au fond de notre cœur, de telle ou telle turpitude dont nous sommes victimes, de telle ou telle vice que nous entretenons et qui provoque notre désespoir, soit nous devenons subversifs, c'est-à-dire que nous acceptons, moyennant ce grain s'élever qui a été planté en nous par la terre et qui est tout puissant, nous acceptons de coopérer activement à cela, nous pliant à la totalité de ce que ce grain de s'élever exige de nous, que nous soyons une bonne terre, que nous écoutions la parole de Dieu dans la largeur, la profondeur, la hauteur, comme dirait Saint Paul, qui est la largeur, la profondeur et la hauteur du cœur même de Jésus. Jésus qui est cet ami exigeant, et à ce moment-là, nous pourrons retourner ce monde en question, en restant bien enfoncé dans ce monde-là, à ce contact, grâce au rôle subversif qui nous est demandé de jouer, non pas alors multiplier les revendications au milieu de ce monde, non pas en allant battre le pavé chaque jour à grand coup de slogans, non pas en faisant des actes de preuve, justement les chrétiens, pas du tout, en ayant tout simplement une conduite conséquente, jusque dans les moindres détails de notre vie. C'est cela, la conduite de la levure, et qui, par contamination, permet de conquérir ce monde et de laisser au grain s'élever la possibilité de porter tout son fruit. Je dis pour conclure, vous voyez que je n'apprends rien de nouveau, comme c'est souvent dans mes homélies, mais pour moi, je vous permets de tirer quelques fruits, j'espère, de ce que dit Seigneur Jésus en étant en exergue telle. sent la lutte entre les têtes. Voilà ce que dit Saint Jean qui se sauve, qui est Jean rouge d'or, vous savez, c'est clairement interminable. Je ne sais pas si ça vous rappelle bien, mais en tout cas, ils sont interminables, et bien sûr, avec d'or, d'accord, je ferme la parenthèse. Voilà ce que dit Saint Jean qui se sauve. Si les douze apôtres, autrefois, ont été le levain qui a changé et sanctifié toute la terre, ils n'étaient que douze. Et encore, l'apôtre Ali, il a dû être remplacé par Matthias. Jugez donc, mes frères, quelle doit être notre corruption et notre lâcheté. Si maintenant que nous sommes un plus grand nombre de chrétiens, car nous sommes nombreux sur la surface de cette terre, peut-être au tiers, mais nombreux en tout cas, eh bien, nous pourrons servir, poursuit Saint-Jean qui nous sauve, de levain pour convertir ceux qui restent. Nous, oui, c'est ça, nous pourrons servir de levain pour convertir ceux qui restent. Nous devrions être assez saints pour pouvoir servir à la corruption de divise monde. Ils étaient tous, ils ont converti la terre entière, ou du moins une bonne partie du globe. Nous sommes des millions et des centaines de millions. Nous devrions normalement avoir déjà converti des dizaines de milliers de terres, Vous voyez, mes frères, que Saint-Jean Chrysostome ne nous a pas avec le dos de la cuillère, je crois qu'il a raison. Nous avons tout ce qu'il faut pour jouer ce rôle subversif, pour retourner ce monde dont nous plaignons sans cesse, qu'il nous ronge, qu'il ne veut pas de nous, qu'il nous écrase en une espèce de syndrome de la persécution. Le Seigneur Jésus nous invite bien au contraire à ne pas être des perdants et des vainqueurs. Saint Paul nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, prenons la résolution, au moins cette semaine, de jouer ce rôle subversif. Partout où nous sommes, dans nos familles, dans les lieux où on travaille, où nous attend le Seigneur, et certains, dans 7 jours, lorsque nous nous retrouverons à la fin de cette semaine, quelque chose dans ce monde aura changé.